Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Daniel Riolo, Stéphane Guy, Guillaume Fousia, supporter des Bleus et aussi du PSG pour Fousia, un peu de Verratti, vous l'avez compris, et Julien Laurence, qui est là également, re-jingle Riolo. Ça c'est Paul qui veut chauffer ça.
Ça chauffe.
Bon, Daniel, tu voulais parler des neufs, surtout des équipes qui sans neufs ne réussissent pas ici au Qatar.
En fait, c'est pas que les équipes sans neuf réussissent ou réussissent pas, c'est que il y a une légende qui perdure depuis pas mal d'années maintenant, qu'il y a un football ou qu'il y aurait un football sans neuf. On a pas mal théorisé là-dessus et effectivement, les Espagnols ont beaucoup essayé de faire ça, les Allemands également pendant cet Euro, et Polo nous le disait à chaque fois que c'était un des problèmes majeurs de cette équipe d'Allemagne, c'est de ne pas en avoir. Mais en fait, je ne comprends même pas pourquoi on a tant théorisé, on a tant cherché une solution sans neuf ou comme quoi il y aurait un acte de naissance du sang neuf au Barça ou qu'on l'aurait inventé en Espagne ou qu'on le reproche à l'Espagne, alors que l'Espagne qui gagne la Coupe du Monde, enfin le premier Euro de 2008, c'est avec Torres, Torres encore 2010, David Villa, enfin les neuf, ils les ont eu, les attaquants, les Espagnols, et le Barça que je sache, 2015, c'est il y a avec à côté de Messi et Neymar, il y a Luis Suarez qui était un vrai neuf et qui a longtemps été au Barça. Il n'y a pas eu de grandes équipes qui n'ont pas eu de neuf finalement. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi on a à ce point voulu théoriser sur la capacité ou la possibilité de faire 100. Souvent, je crois que quand on a fait 100, c'est qu'il n'y en avait pas. Et que peut-être les Espagnols qui en ont souffert là, parmi les raisons qui peuvent expliquer l'échec de l'Espagne, il y a certainement ça, comme pour l'Allemagne, mais ce n'est pas la seule raison, c'est certainement une raison. Après, si tu regardes les équipes qui sont en ce moment à la Coupe du Monde, effectivement, le 9, il est important. Il est important en bleu avec Giroud. Il est important avec Harry Kane en Angleterre. Même un gars qui était un petit peu critiqué montre à quel point il est important, c'est Richarlison avec le Brésil. On a découvert que le Portugal en avait un depuis hier avec Ramos qui claque un triplé alors que peu de gens dans le grand public connaissaient ce joueur de Benfica. L'Argentine, c'est un rôle un peu bâtard, mais néanmoins, Lautaro Martinez ayant échoué, ils ont lancé Alvarez et Alvarez se révèle être un très bon joueur. Donc le 9, c'est encore d'actualité. Il n'y a pas dans le foot d'équipes qui n'ont pas d'avant-centre. C'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup mis en avant les attaquants de côté. Mbappé étant l'illustration de cet attaquant-là, les Anglais en ont deux, Julien en a parlé tout à l'heure. Néanmoins, le 9, ça reste un rôle très important et il n'y a pas de football vainqueur sans vrai numéro 9. Ah oui, on me ressortira peut-être que Chelsea de Tuchel gagne la Ligue des Champions. Et je vais même pas au bout de ma phrase à dire 109, parce que même s'il avait un travail et un rôle très obscur, Werner a fait office de neuf.
Il y avait surtout
durant cette campagne. Il était numéro 9.
Oui, on va dire que comme c'était avec pas un vrai neuf de formation, ouais, il n'avait pas le tampon du neuf et tout, mais en tout cas.
Je pense que l'Allemagne peut se.
Alors Stéphane.
Non, mais je veux pas couper Daniel.
Si, vas-y, tu veux.
Mais je suis totalement en accord avec Daniel sur ce point. Il y a vraiment, et je crois que non seulement, je pense qu'il y a pas beaucoup de solutions sans neuf, mais qu'est-ce qu'on est bon quand on a un bon neuf, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est-à-dire que l'équipe de France peut se réjouir tous les matins d'avoir Giroud. Les Anglais, Kane, on en parle même pas parce que lui, en plus, il est à la fois 9 et 10. C'est-à-dire qu'il a, c'est un joueur polymorphe assez fantastique. Et puis Richarlison aussi au Brésil. Moi, je pense que il y a beaucoup de talent autour de lui, mais que ce joueur-là, ce joueur d'impact, il est fondamental.
Après, c'est vrai qu'on en a fait. Et là, Julien peut témoigner. On en a fait beaucoup le reproche à Guardiola. Mais Guardiola, que ce soit avec Gabriel Jesus quand il l'avait Sergio Aguero, il avait un vrai neuf. Et dès qu'il a pu en choper un, eh bien, il est allé en prendre un. Il a à Londres cette année sous la main. Et je pense qu'il préfère jouer avec un neuf.
Toi, t'es d'accord aussi, Julien?
Je suis d'accord. Il y a que peut-être les Pays-Bas avec Gabco et Memphis qui sont un petit peu à part, peut-être, parce que c'est encore une fois des profils un petit peu différents et peut-être pas des vrais neufs comme ceux dont on vient de parler. Après, t'as aussi des sélections, Daniel, où t'as pas le choix, parce qu'il y a pas de neuf, en fait. C'est pas le niveau. L'Allemagne, ils peuvent mettre Füllkrug, qui est un joueur qui était en deuxième division il y a un an. Donc parfois tu dois aussi t'adapter au fait que malheureusement dans cette génération-là ou dans les deux générations qui forment ta sélection, bah malheureusement c'est une génération sans vrai neuf et sans, sans point d'ancrage, sans pivot, sans ce profil-là qui je pense parfois est au détriment de ta sélection.
Mais quand on l'a, Guillaume, quand on l'a, on peut pas s'en passer quoi. Et que on soit dans un système en 4-3-3 ou dans un 4-2-3-1 comme on l'a, un vrai bon numéro 9 et même un vrai 9, un 9 qui ne marque pas. Daniel disait c'est une équipe vainqueur quand on a le 9, bah oublions pas Giroud 2018, même Guy Varch 98.
Harry Kane là sur la Coupe du monde.
Voilà, et pourtant, ils ont un rôle essentiel. Moi, j'ai toujours dit, on ne gagne pas la Coupe du Monde en 2018 si on n'a pas Giroud dans son rôle. Donc, donc, vive les équipes avec les numéros 9. Et merci, Daniel, pour ce billet qui met en valeur ce rôle si important.
Bon, bah, je crois qu'en fait, comme tout, on est d'accord, on va arrêter le débat.
Je me souviens vraiment d'Aimé Jacquet dans toutes ses conférences de presse après 98, avant la Coupe du Monde, etc., qui insistait tellement sur ce rôle-là et qui disait surtout toujours son admiration pour ces joueurs-là, de toutes les qualités que ça demandait, d'abnégation, les qualités techniques, évidemment. Et c'est un truc qui est resté vraiment marqué en moi.
Mais tu sais, en fait, Gilbert, on dit tout le monde d'accord. Oui, on est tous d'accord. Sauf que, il y a un faux procès qui a été fait à l'Espagne à ce sujet-là. Que l'Espagne, alors on me dit ils en avaient un, c'est vrai, ils l'ont pas fait jouer Morata. Et là, il y a peut-être effectivement une erreur à pointer chez Luis Enrique.
Parce qu'il est pas bon, pas assez bon non plus. C'est pas non plus un top 9.
Voilà. Mais le problème, c'est peut-être ce qu'il faut mettre en avant dans l'échec de l'Espagne, c'est pas tant le choix d'Enrique que le fait qu'il y a un problème dans leur formation. Le problème dans leur formation qui peut expliquer également leur échec, c'est les fameux joueurs dans le football actuel de côté qui percutent. Ils les ont pas non plus. Si tu regardes le Real et le Barça, le Real fait jouer Vinicius d'un côté. Valverde dans un rôle un peu plus bâtard de l'autre côté. Tu regardes le Barça, c'est Rafinha d'un côté et Dembélé de l'autre. C'est peut-être là qu'ils pêchent vraiment les Espagnols plus que dans ce qu'on veut leur attribuer d'un football qui se veut inventif alors qu'il ne l'est pas. C'est pas complètement vrai. Il y a des reproches qu'on peut leur faire, c'est le peu de remise en question, ça c'est vrai. Une espèce de manque d'humilité quand Laporte dit c'est nous qui pratiquons le meilleur football. C'est vrai qu'il y a des phrases comme ça qui choquent un peu. Peut-être qu'ils devraient se regarder un petit peu plus et regarder aussi ce que font les autres et être moins sûrs d'eux et de leur technique qui est souvent très belle. Moi, je continue de défendre. Moi, j'aime, au moins, ils ont des idées. Ils n'arrivent pas tout le temps à gagner avec. Ils ont été battus, comme je disais hier, les trois dernières compètes uniquement aux pénaux. Ils ont une limite. Tout le monde semble comprendre aujourd'hui comment tu peux faire pour les battre, même si c'est quand même au péno qu'il faut les emmener pour les battre. Mais je trouve que parfois on leur fait trop de faux procès.
Ils ont pas mal hier quand même.
Et pardon ?
Ils ont quand même beaucoup manqué d'idées justement hier.
Oui, c'est néanmoins même quand ils manquent des idées pour les battre, il faut les emmener au péno sur les trois dernières compètes quand même.
Mais en même temps, Daniel, tu vois, hier l'Espagne, j'ai écouté avec beaucoup de, c'était un débat passionnant hier que vous avez eu dans l'after. L'Espagne, c'est 6 tirs, je crois, dans le match. 6 tirs dans le match. Et la Pologne a frappé 8 fois au but sur une mi-temps contre nous.
Mais c'est compliqué de frapper quand t'as 2 lignes à 20 mètres de tes buts.
J'étais pas avec vous hier soir, j'étais au match. Et les Espagnols, ils étaient exaspérants à ne pas frapper.
Ils ne peuvent pas frapper. Ils ne peuvent pas frapper.
Ils peuvent.
Il n'y a pas la position de frappe.
Non, mais je te prends un exemple. La contre-attaque
de
Morata.
Il y en a au moins 10 dans le match.
Je prends un exemple. La contre-attaque de Morata où il veut glisser le ballon à Ansu Fati, il fait n'importe quoi, la balle elle sort en 6 mètres.
Il y a ce cas-là.
Non, moi j'en ai vu plusieurs. Plusieurs Pedri,
regarde, Dani Olmo, il a frappé dans le dernier match, il avait mis une frappe qui avait failli filer sous la barre. C'est pas vrai. Quand vous jouez avec deux lignes de 5 joueurs qui sont à 20 mètres, les positions de frappe, il y en a pas beaucoup.
Oui, mais au bout d'un moment quand
tout le monde fait ça contre
devant,
tout le monde fait ça contre l'Espagne.
Il faut le faire, il faut tenter. Tu vois, bon, ils auraient pu le faire franchement vraiment plusieurs fois.
Non, vraiment moi je suis prêt à revoir le match et vous me donnez les positions de frappe, il y en a pas plus de 3 pour l'Espagne. Des positions de frappe.
Je vais le regarder avec Fouzia.
Quand t'as un béton face à toi comme ça, c'est très très dur de mettre la
position. Je vous laisse le regarder tout seul. Ça m'intéresse pas du tout de revoir ce match qui m'ennuyait profondément.
Je préfère relire
les mémoires du général de Gaulle.
Moi, je pense que leur vrai problème, c'est d'abord effectivement qu'ils n'ont pas de neuf dans leur formation, et le problème de joueurs de côté qui percutent pas assez. Ça, c'est un vrai problème qui fait qu'ils soient obligés de repasser par l'intérieur pour faire les passes.
Ils ont beaucoup c'est de problèmes, Daniel. On en parlera tout à l'heure avec Fred, peut-être.
Mais... C'est ça. Il y a des bons procès, il y a des faux procès.
Et là, j'aimerais que l'avis de Julien Laurence. En fait, est-ce que les Espagnols, avec leur culture permanente du taureau, là, ils sont pas devenus prisonniers de la petite passe? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils excellent dans le petit espace, là, tu vois, à jouer, voilà. Et puis, au final, en fait, à un moment, faut savoir percuter, quoi.
Ouais, mais c'est marrant, parce que, par exemple, Pedri disait dans l'équipe, je crois, il y a quelques jours, moi, je cherche que la passe verticale. Bah, hier, il y avait aucune passe verticale.
Ah oui, Pedri, il pouvait pas.
Ou alors, Pedri, il a pas compris la différence entre horizontale et verticale.
Mais il pouvait pas.
Non, mais ce qui me jette, tu peux toujours trouver une verticalité, Daniel. C'est pas vrai. Même avec deux lignes de 5, tu peux. Bah, si, même avec.
Ne serait-ce que l'année dernière, quand il y a le PSG Nice au Parc des Princes, au PSG, il y a quand même des gars capables de prendre la verticalité et de percuter. On les connaît, les joueurs. Ils se sont enfoncés dans le mur. C'est un grand classique. Combien de fois Manchester City bute contre des équipes qui font ça? Il y a que contre eux qu'on fait ça. Il faut le dire. Il y a des bons et il y a des faux procès. Même avec des joueurs de verticalisation, même avec des joueurs qui percutent, c'est quand t'as deux lignes aussi serrées, c'est super compliqué. Toutes les équipes butent contre ça. C'est des matchs qu'on voit tous les week-ends, les gars.
Et comment ça explique les seules deux frappes? Je crois qu'il y a eu deux frappes. Mais
parce qu'il n'y a pas de position de frappe. Revois le match, tu vas voir que c'est très dur de frapper.
C'est ça, c'est que, bien sûr, c'est dur de frapper. Mais à un moment donné, si tu peux pas varier ton jeu pour dire, si t'es obligé de passer tout le temps en latéral, que tu trouves pas de la verticalité, il y a un problème et dans la verticalité et dans la diversité des solutions.
Mais parce que
frapper,
plus personne ne joue.
Il y en a qui sont capables de frapper de loin. On a vu,
deux tirs cadrés d'Espagne en tout.
Mais parce que si.
Je crois que le premier tir cadré, il est,
mais parce que le football, parce
et
que
le premier tir espagnol, il est le plus tardif. Pardon, Gilbert.
Non, oui, c'est
à la con, mais qui est quand même révélatrice de ce qu'a fait l'Espagne hier. Il n'avait pas tiré pour la première fois aussi tardivement dans un match depuis la Coupe du Monde 66, l'Espagne hier.
Oui, mais ça, c'est des stats. Moi, ces stats, je n'en fais rien. Je suis désolé. À partir du moment où tu as toujours le ballon, que tu es dans la surface et que tu n'as pas l'espace, ils vont jamais frapper. Tu pourras sortir toutes les stats du monde. Aujourd'hui, on est dans un football où il y a plus d'équipes qui jouent comme ça. Comme par hasard, les seuls matchs qu'on voit comme ça, c'est contre l'Espagne, la Russie il y a 4 ans, l'Italie qui est obligée de faire ça, il y a la dernière à l'Euro. Donc, c'est la recette. Et comme il n'y a plus personne, Daniel, qui le fait.
Ils ont eu beaucoup plus d'idées, de mémoire, hein. Je me souviens moins bien des matchs que toi, mais ils ont eu beaucoup plus d'idées contre l'Italie l'année dernière que là. Là, il n'y avait pas d'idées.
Mais tu sais pourquoi il te semblait qu'il y avait plus d'idées? Parce que l'Italie a essayé de jouer un peu plus.
Ouais,
sauf que la deuxième mi-temps, ils n'arrivaient plus à jouer, les Italiens. Ils se sont dit, comme on ne peut pas, on va se replier.
Stop, Daniel.
En 2010.
Vite pour conclure.
Tous les matchs, il rame à mort contre le Chili de Bielsa, il perd le premier match contre la Suisse, et tous les matchs, il les gagne 15-0 alors qu'il domine tout, et que c'est le football qu'on dit éclatant et tout. Mais c'est dur de jouer contre des murs. Toutes les équipes se tapent sur des murs. Et moi, dans je dis, on fait des faux et des mauvais procès et des bons procès.
Ancien DTN du Maroc, on va parler du Maroc, équipe sensation là, de cette Coupe du Monde. Et puis, concernant l'Angleterre, je renvoie quand même à la revue de l'After actuellement en kiosque, avec Julien qui a écrit un papier magnifique. Mais pourquoi les Anglais ne gagnent jamais la Coupe du Monde? Les explications sont là.
Exactement. C'est tout dans la revue. Donc,
voilà. Les Anglais sont champions du monde.
C'est écrit en français ou en anglais?
En français.
Merci pour nous.
C'est comme Verratti, c'est comme Daniel qui ne voyait pas l'Italie gagner quoi que ce soit.
Ah non, tu ne relances pas Verratti maintenant. Dans un instant, Nasser Larguet, le Maroc en plus.
Il est parti.
À tout de suite.